Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Lutte contre l'extrémisme violent en RDC. Les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales notamment sont invités à Kinshasa. Des travaux se tiendront à ce sujet la semaine prochaine, organisés par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec le secrétariat national pour le renforcement des capacités et le PNUD. Relancer les entreprises agricoles du Grand Équateur, c'est l'objectif poursuivi par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale et le ministre d'État à l'agriculture. Ceci fait suite à la mission effectuée récemment par Daniel Mukoko Samba dans la Mongala et le Sud Ubangi. Une équipe conjointe est mise en place chargée de mener une étude de faisabilité. Et puis, une synergie avec mission de pérenniser les acquis de la cohabitation pacifique entre les communautés vient de voir le jour à Bukavu. De quoi s'agit-il? Nous en saurons plus avec la coordonnatrice, Madame Alliance Eri. Elle est l'invitée de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Les gouverneurs, les présidents des assemblées provinciales, des administrateurs de territoire et acteurs de la société civile d'au moins 10 provinces de la RDC sont invités à Kinshasa. Ils vont se réunir autour des conversations nationales sur la montée de l'extrémisme violent en RDC, assise organisée par le ministère de l'Intérieur et Sécurité du lundi 3 au jeudi 6 novembre à Kinshasa. C'est en collaboration avec le secrétariat national pour le renforcement des capacités SENAREC et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse conjointe. Selon Paul Kaboué, conseiller au collège juridique au ministère de l'Intérieur, les causes de l'activisme des groupes armés et autres actes violents dans les provinces seront analysées en vue d'apporter des solutions. Il l'a dit à Grace Hamzati.
L'extrémisme violent, c'est l'ensemble de ces actes qui dérangent la population dans certains coins. Alors, il est important pour nous de faire une prévention à travers certaines provinces où on a, à travers certains rapports du département d'État américain, de l'ONU, du Conseil de sécurité des Nations Unies, des rapports des experts de PNUD, de voir comment est-ce que nous pouvons éradiquer ce phénomène. Nous avons certains provinces comme l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maïndombe, le Kwango, le De Kasaï, le Tanganyika, ainsi que la ville de Kinshasa qui seront là. La population doit s'attendre à ce que nous puissions avoir des recommandations à l'issue de ces assises. Ces recommandations seront coulées en un programme national de lutte contre l'extrémisme violent qui sera piloté par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, et ça nous permettra d'éradiquer ces phénomènes dans toutes nos provinces. Il y aura des actions opérationnelles pour l'éradication sur terrain.
Pour leur part, Marcel Kanda, coordonnateur du SENAREC, et Shigata Koulibaly, délégué du PNUD à cette conférence de presse, affirment que leurs structures vont apporter un soutien technique et financier à ces travaux dont les objectifs rencontrent, selon eux, les attentes de la population, à savoir la paix durable, la stabilité et le développement local. Pendant ce temps, une mission du Parlement européen en RDC vient de se clôturer. En effet, selon une dépêche de l'Union européenne parvenue hier à Radio Kapi, deux semaines après la tenue à Bruxelles de la deuxième édition du Global Gateway Forum, 8 députés de la Commission développement et de la sous-commission aux droits de l'homme du Parlement européen, conduits par Barry Andrew, président de la Commission développement, se sont rendus à Lubumbashi dans le Haut-Katanga du 27 au 29 octobre dernier. L'objectif était de comprendre comment le Global Gateway s'est traduit dans des pays fragiles comme la RDC et en saisir l'impact potentiel sur le développement humain. La même source indique qu'au cours des échanges avec le gouverneur intérimaire ainsi qu'avec le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ces députés ont exprimé leur solidarité avec la RDC et rappelé l'engagement du Parlement européen à soutenir la RDC pour des solutions sur le conflit dans sa partie est. Par ailleurs, la présidente du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu réitère la demande concernant la création d'un tribunal spécial pour le Congo. Nene Bintou a reformulé cette demande hier à Paris lors de sa prise de parole au nom de la société civile congolaise devant la tribune de la Conférence internationale de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Dans son discours, elle a clarifié que l'aide humanitaire ne saurait être efficace que si elle va de pair avec la protection des populations civiles. On écoute Nene Bintou.
Nous, société civile congolaise, nous documentons
documentons sans relâche des crimes de guerre, comme je l'ai partagé hier avec le Saint-Père, le pape Léon XIV, qui m'a reçu en audience au Vatican. Nous ne cessons de réclamer un tribunal spécial pour le Congo en complément de la Cour pénale internationale, car il n'y a aucune paix véritable sans justice, comme le répète sans cesse le prix Nobel Denis Mukwege. Il n'y aura pas non plus de paix sans les femmes et les jeunes, qui sont très peu associés au processus de paix, alors qu'ils sont les plus touchés par les conflits armés. Nous, femmes congolaises, nous exigeons deux choses. Être incluses dans le processus de paix comme bâtisseuses, médiatrices, en application d'une réelle diplomatie féministe et obtenir réparation en tant que victimes de ces guerres infinies au Congo.
Entre-temps, au Nord Kivu, au moins 12 civils ont été tués et plusieurs maisons incendiées lors des 3 attaques attribuées aux rebelles des EDF entre mardi et jeudi de cette semaine à Mulunguma, Gbado et dans le carré minier de Pangoy. Ces villages appartiennent au secteur de Bapéré, situé au sud du territoire de Lubero. L'administrateur du territoire qui confirme l'information annonce que les civils enlevés ont été libérés grâce à une intervention rapide des FARDC et de l'armée ougandaise. Le colonel Alain Kiwewa explique, il est joint par Martial Papi Mukeba.
À Mulunguma, c'est là où ils ont pillé systématiquement le grand dispensaire qui était là-bas et la pharmacie qui était là-bas et tous les produits pharmaceutiques qui étaient là-bas ont été emportés. Il y a eu 4 personnes qui ont été tuées et ils ont emporté les civils et ils ont emporté aussi les vaches. Heureusement, il y a eu contre-attaque de nos forces de défense et de l'UPDF. Les otages qu'ils avaient emportés sont rentrés et ont été libérés. Et puis, les vaches également ont été libérées. Le 29 de ce même mois, au village Guado, qui est dans le groupement Bapakombe, il y a eu encore incursion de ces terroristes EDF. Et là-bas, le bilan était un peu lourd parce qu'ils ont tué 6 personnes. Dans ces 6 personnes, il y a eu 5 femmes. Les terroristes ont continué, ils ont pris la direction des Maasai. Le 30 octobre, c'était dans un carré minier qu'on appelle Pangoui. Là-bas, ils ont tué 2 personnes et ils ont incendié également plusieurs maisons.
Comment redynamiser la chaîne de valeur agricole, accroître la production et garantir la sécurité alimentaire des Congolais? C'est autour de cette question cruciale que se sont réunis jeudi à Kinshasa le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, et le ministre d'État à l'agriculture et sécurité alimentaire, Muindo Nzangi. Pour ces 2 membres du gouvernement, il est urgent de relancer les entreprises agricoles en sommeil afin de stimuler l'économie nationale. Cette rencontre fait suite à la mission effectuée par Daniel Moukoko Samba dans les provinces de la Mongala et du Sud-Ubangi. Le ministre de l'économie nationale y a observé de près les réalités du terrain et en a fait le compte-rendu à son collègue de l'agriculture. À l'issue de leurs échanges, les 2 ministres ont décidé de mettre en place une équipe conjointe chargée de mener une étude de faisabilité. Objectif, relancer dans les plus brefs délais les entreprises agricoles du Grand Équateur. On écoute à ce sujet le ministre de l'agriculture, Muindo Nzangi, au micro de Blaise Makasinandes.
Nous sommes venus discuter à la demande du vice-premier ministre et ministre de l'économie sur la suite de notre compact de résilience, puisque le vice-premier ministre veut absolument qu'au-delà des paroles, que nous puissions produire des résultats. Des résultats pour accroître l'offre nationale des produits alimentaires, c'est très important qu'on le fasse. Donc, on est venu discuter sur ce qui a déjà été fait et ce que nous pouvons faire très rapidement avec les moyens de bord que nous avons pour faire quelques projets d'urgence en vue d'accroître la production dans notre pays. Et donc, là, nous nous sommes mis d'accord sur un plan pour que nous puissions effectivement avoir un document qui nous permette les 2 semaines qui suivent d'avoir des résultats sur le terrain. À partir du moment où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris le pouvoir, il a mis l'accent sur l'agriculture, il a parlé de la revanche du sol sur les sous-sols, il a mis beaucoup de moyens dans ce ministère. Je crois que très bientôt les gens vont voir des résultats palpables sur le terrain, ça je peux vous le promettre.
Construire un front régional uni pour le climat, les forêts et les peuples du bassin du Congo, c'est le thème de la télé régionale des organisations de la société civile de 6 pays du bassin du Congo, à savoir la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la République centrafricaine, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Durant cet atelier qui s'est clôturé hier à Kinshasa, les organisations de la société civile ont réfléchi sur comment stopper la déforestation d'ici 2030. Organisé par Greenpeace, cet atelier de 2 jours s'est tenu en prélude de la conférence sur le climat prévue au Brésil, reportage de Lukin Zao.
Nos forêts, nos vies, c'est l'un des messages lancés par les organisations de la société civile lors de ces forums. Pour l'environnementaliste Bonita Nginamaou, détruire la forêt, c'est nuire même à la santé.
Dans la médecine aujourd'hui, qu'est-ce que notre médecine sans la forêt? Donc la dégradation a beaucoup de méfaits et de conséquences sur notre vie en général et que protéger les arbres, c'est protéger nos propres vies.
Georges Milumbu, directeur pays des Greenpeace, estime que la bonne gouvernance constitue la clé pour stopper la déforestation.
La gouvernance reste d'abord clé, constituer un bloc contre les grands pollueurs, c'est-à-dire moins de corruption, parce que ces pollueurs viennent avec la corruption à nos gouvernements, et c'est ce qui fait que, vous voyez par exemple l'exploitation des énergies fossiles, ça continue, et ils payent mal, et donc c'est beaucoup de millions en termes de manque à gagner, et qui auraient servi à financer les communautés directement pour qu'il y ait zéro déforestation d'ici 2030. C'est pourquoi nous disons une autre ère de ces centres de déforestation est possible.
Notez que la vulgarisation des cadres juridiques figure parmi les engagements pris.
Autre nouvelle, égalité femmes-hommes et l'exploitation transparente des minerais dans la région des Grands Lacs, thème au centre d'une série d'activités préparatives du 9e sommet de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL. Le lancement a eu lieu hier à Kinshasa. Ces assises réuniront les chefs d'État et de gouvernement de 12 pays de la région le 15 novembre prochain à Kinshasa. À cette occasion, les ministères des Mines et de l'Intégration régionale ont réuni les experts des mines ainsi que ceux du genre et famille des 12 pays de la région pour réfléchir sur comment faire la promotion de l'égalité de sexe à la table des négociations de paix et exploiter les minerais avec honnêteté dans la région des Grands Lacs. Plus de détails avec Josué Kefebe.
À l'entame, les experts miniers des pays de la région des Grands Lacs ont établi un diagnostic sur l'exploitation des minerais dont la présence de tous a démontré un engagement collectif pour une gouvernance minière transparente, a salué le secrétaire général aux mines, Jacques Ramazan Lutuba.
Votre présence témoigne de notre engagement collectif, de notre plateforme régionale pour l'instauration d'une gouvernance minière transparente en vue de répondre aux objectifs du pacte de la CIRGEL et des instruments de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs, à savoir la sécurité, la stabilité et le développement.
À leur tour, les femmes, représentantes des différents pays, ont tablé sur la question de participation des femmes dans les négociations de paix, notamment sur la partie est de la RDC. Anna Jakunduelo, la représentante de la RDC.
La tenue de la réunion des points focal genre en RDC, ça montre une marque de confiance pour la RDC, mais aussi une reconnaissance au niveau du leadership de la RDC dans l'agenda pour la paix et sécurité. Alors, les femmes sont très impliquées dans la consolidation de la paix en RDC, mais précisément à l'est de notre pays.
Ces assises vont se poursuivre ce samedi et seront suivies d'une autre série d'activités qui dureront 13 jours.
Dans l'actualité aussi, mettre fin aux routes éphémères et construire des ouvrages conçus pour durer un demi-siècle. En s'inspirant directement de l'expérience angolaise, ce sont là les objectifs ambitieux que s'est fixé le ministre des Infrastructures et Travaux Publics pour l'avenir des routes en RDC. John Banza revient du forum sur le financement des infrastructures qui s'est tenu jeudi à Luanda en Angola. Il explique que sa participation à ce forum s'inscrit dans la volonté de la RDC d'échanger avec les pays membres de l'Union africaine sur les infrastructures de connexion panafricaine. L'Angola, pays voisin avec lequel la RDC partage plus de 2500 km de frontières, s'est révélée être une source d'inspiration majeure, ayant réalisé un pas de géant dans les infrastructures après des décennies de guerre, a-t-il déclaré. On écoute le ministre John Banza dans cet extrait proposé par Alain Rumushige.
J'ai eu le bonheur d'échanger avec les acteurs qui ont révolutionné les infrastructures en Angola. On a eu des échanges très fructueux et d'ici la semaine prochaine, ces investisseurs viendront ici, chez nous, dans notre pays, pour essayer de se mettre à nos côtés pour que la vision du président de la République, son action, soit matérialisée davantage et le plus tôt possible. Nous avons surtout aimé l'approche de nos voisins. Je vous rappelle que sur les 9 pays voisins, c'est le seul pays avec lequel nous avons la plus longue frontière, plus de 2500 kilomètres. Et donc, nous avons des peuples de part et d'autre. Nous sommes déjà en train de construire la route qui quitte Mbanzangungu vers Kimpangu, c'est la frontière avec l'Angola. Nous avons la route vers Lufu, c'est la frontière avec l'Angola. Nous avons la route Kananga, Kalambambuji, jusqu'à la frontière avec l'Angola.
Et puis, des acteurs de la société civile réunis au sein de la coalition des droits des citoyens congolais notent des avancées remarquables dans la mise en œuvre du programme Kin Ezobonga. Ils ont dressé ce bilan à mi-parcours hier vendredi lors d'un échange avec les médias à Kinshasa. Ces activistes de la société civile préconisent le partage d'un plan opérationnel de ce programme pour plus de suivi. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
La coalition de la société civile pour la promotion et la protection des droits des citoyens congolais affirme sa satisfaction d'avoir été associé au lancement des travaux de programme Kin Ezobonga du gouverneur Daniel Bumba. Cette structure constate cependant que la suite de ces travaux se déroule sans la participation de la société civile qui pourtant a déjà élaboré des outils pouvant permettre d'accompagner cet ambitieux programme, comme indique son porte-parole Jean Bosco Puna.
Nous allons nous mettre debout pour des campagnes de sensibilisation de la population afin que nous puissions suivre le travail de l'exécutif. Je crois qu'avec un plan opérationnel, nous allons définir notre calendrier et nous venons vers le gouverneur pour qu'il puisse impliquer véritablement la société civile en toute responsabilité afin que ce programme puisse répondre aux attentes des Kinoises et des Kinois.
Pour amener les Kinoises et Kinois à s'approprier ces projets, cette organisation citoyenne recommande au gouverneur Bumba de leur faciliter la tâche dans la campagne de sensibilisation des jeunes à la culture de la paix, du vivre ensemble et de la protection du patrimoine commun. Elle plaide par ailleurs pour la dotation des moyens nécessaires à la police nationale en vue de lui permettre de faire face aux défis de sécurisation des personnes et de leurs biens.
Actualité internationale.
En Tanzanie, deux jours après les élections présidentielles et parlementaires, la situation reste tendue. L'opposition évoque un bilan de près de 700 morts depuis le début des manifestations contre le pouvoir et la tenue des élections présidentielles le mercredi 29 octobre. De son côté, le ministre tanzanien des Affaires étrangères a récusé sur la chaîne Al Jazeera tout usage excessif de la force.
L'invité.
Une synergie ayant pour mission de pérenniser les acquis de la cohabitation pacifique entre les communautés a vu le jour à Bukavu le 29 octobre dernier, date commémorative du 29e anniversaire de l'assassinat de feu Monseigneur Christophe Mundi-Roi par les troupes de l'AFDEL. Dénommée Coalition citoyenne pour la transformation sociale, cette synergie a organisé une vidéoconférence regroupant d'autres membres qui se trouvent à Goma, à Kinshasa et dans les villes de Lyon en France et de Bruxelles en Belgique. Pour en parler, nous recevons la coordonnatrice de cette synergie, Madame Alliance Herry. Suivez cet entretien.
Madame Alliance Herry, bonjour.
Bonjour, et c'est un honneur de prendre la parole pour rendre hommage à Monseigneur Christophe Mundi-Roi et pour rappeler le sens profond de notre engagement citoyen pour la République démocratique du Congo.
Vous venez de mettre sur pied une synergie pour pérenniser les acquis de la cohabitation pacifique prônée par feu Monseigneur Mundi-Roi. Pourquoi un groupe de la crème intellectuelle de Bukavu, Goma, Kinshasa et de la diaspora se constitue-t-il autour de Monseigneur Christophe Mundi-Roi?
Vous savez, quand un pays traverse des moments graves comme les nôtres, il arrive un moment où les consciences doivent se lever. Nous ne sommes pas là en tant que religieux, politiciens, non, mais en tant que citoyens, intellectuels, chercheurs, membres de la société civile de Bukavu, de Goma, de Kinshasa. Et d'ailleurs, nous avons choisi aujourd'hui la figure de Monseigneur Mundi-Roi Christophe parce qu'il incarne quelque chose qui dépasse la religion. Le courage moral, la protection des faibles, la vérité, la dignité humaine et l'amour de notre pays, l'amour du prochain, l'amour de l'être humain. Notre pays est laïque, certes, mais la République se fonde aussi sur des valeurs universelles. La justice, la liberté, la dignité humaine, la solidarité, la responsabilité citoyenne. Et ces valeurs-là, Mundi-Roi les a incarné avec une force rare. Quand l'État est fragile, la conscience doit rester debout. Et c'est pour cela que nous nous réunissons autour de son héritage aujourd'hui.
Parlant de Monseigneur Mundi-Roi, justement, votre plateforme me rappelle que l'héritage de ce prélat assassiné à Bukavu pendant la guerre dite de libération sous l'AFDEL est une boussole pour l'avenir.
Oui, c'est une boussole pour tout le peuple congolais. Je dirais même pour tout le peuple africain. pour le monde, pour les jeunes, pour les leaders, pour chaque citoyen, citoyen congolais, citoyen africain, citoyen du monde. Elle nous oriente vers un Congo digne, souverain, juste, où la vie humaine est sacrée et respectée. Et le moment, c'est maintenant. Le Congo est à un tournant de son histoire. On ne peut plus rester spectateur, non. On doit redevenir acteur, actrice de notre destin. Muziro a nous dit ceci, même dans la nuit la plus sombre, il y a un chemin. Et cette boussole, ce n'est pas seulement la foi, c'est la conscience, la loi, l'éthique républicaine, l'amour du pays et le respect de la dignité humaine.
Au cours des différents exposés du 29 octobre, date de commémoration du 29e anniversaire de l'assassinat du prélat, les orateurs ont soulevé des passages très poignants tels que le combat de l'archevêque Muzihiwa n'était pas seulement le respect des lois, mais l'établissement des lois justes. Que veut dire ce concept-là?
Quand Monseigneur Muzihiwa Christophe disait que son combat n'était pas seulement pour le respect des lois, mais pour l'établissement des lois justes, il disait quelque chose de très profond. Une loi n'a de valeur que si elle protège la vie, la liberté et la dignité du citoyen. Cela, c'est un principe républicain. Ce n'est pas religieux. C'est même le fondement d'un état de droit. Notre constitution parle de dignité humaine, de justice, d'égalité, de paix. Ce sont exactement des valeurs pour lesquelles il a donné sa vie. Refuser de se taire face au mal. Muziro Christophe nous rappelle que la vraie résistance commence dans le cœur et dans la conscience même. Et c'est cette force-là qui transforme tout un peuple.
Alliance Héry, je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette invitation.
Voilà, par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.